9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes juste avant la guerre. En octobre 1938, nous sommes en Suisse, dans le magnifique canton de Vaud. On n'est pas loin de Montreux, sur les bords du lac Léman. C'est très beau, ce coin-là. Dans le début de l'après-midi, une voiture est en train de quitter justement le centre-ville de Montreux. Elle s'éloigne du lac. On peut la suivre quand elle s'enfonce dans une vallée et progresse là en direction des Alpes. Le trajet ne dure pas très longtemps, une trentaine de minutes. Et après pas mal de virages, on est dans des routes de montagne, la voiture s'arrête devant une maison. Toute simple, au sommet d'une haute colline. Si je dis qu'on est au sommet d'une haute colline, c'est pas tout à fait par hasard, vous allez comprendre. De la voiture sortent deux enfants avec leur nounou. C'est des tout jeunes enfants. Michael a 7 ans et Janina en a 2 seulement. Et la mère sort de la voiture. C'est une femme d'une trentaine d'années, taille modeste. Elle a les cheveux courts, sombres. Elle regarde longuement cette maison dans laquelle elle s'apprête à habiter. On ne lui avait pas menti. Elle va bien pouvoir faire son travail ici, elle va pouvoir émettre. Pendant que la nounou, elle s'appelle Olga, s'occupe de sortir les affaires des enfants de la voiture, Ursula, la mère de famille, ouvre la porte. Et la voilà qui découvre cette demeure. Et très vite, elle se rend dans la chambre pour y poser la lourde valise qui ne la quitte jamais. Elle ouvre la valise en question et elle en sort un émetteur-récepteur qu'elle cache tout de suite dans une armoire. Et elle prend l'antenne également, qu'il va falloir aller disposer sur le toit de la maison. Vous comprenez l'intérêt d'être sur le sommet d'une colline. Vous l'aurez compris, Ursula n'exerce pas une profession banale. Son nom civil, c'est Ursula Kujinska. Son nom de code, c'est Sonia, et je vous parle d'une espionne. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en Suisse ? La Suisse, c'est un des rares pays à être neutre à l'époque, au milieu de toutes ces alliances qui se nouent entre les pays voisins, à la confluence de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche, de la France. Géographie parfaite, en plus la neutralité de la Suisse en fait un véritable nid d'espions, sans compter toutes les organisations internationales qui siègent là tout près, à Genève, notamment la Société des Nations, vous savez, la SDN, l'ancêtre de l'ONU. Ursula alias Sonia, comme de nombreux autres espions envoyés par leurs gouvernements respectifs, vit sous légende, pour reprendre le titre de la série audio. Officiellement, elle dit qu'elle est une réfugiée politique. Pour obtenir son visa suisse depuis l'Allemagne, elle a argué qu'avec ses deux enfants, elle était une cible pour la Gestapo qui pourrait l'arrêter au nom de sa judéité. C'est vrai qu'elle est juive et donc sur ce point-là, elle ne ment pas. C'est à ce titre, en tout cas, que les Suisses l'ont accueillie sur son territoire. Ce qu'ils ignorent, bien entendu, c'est que Ursula œuvre dans l'ombre pour le compte de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors avant d'aller plus loin, si vous voulez bien, il faut que je revienne sur les circonstances qui ont amené Sonia, appelons-la comme ça, jusque sur les bords du lac Léman. Et ce qui l'ont amené à travailler pour le compte de l'URSS. Elle était née en 1907, donc à Berlin, dans la capitale de l'Allemagne impériale de l'époque, 1907, vous imaginez, dans une famille juive. Son père était un homme politiquement engagé dans les cercles de gauche berlinois. On est très à gauche même dans la famille Kujinski, ce qui fait d'ailleurs que Ursula a tout naturellement adhérer à l'idéologie communiste. Elle a 22 ans au moment de la crise de 29. C'est une crise terrible, vous savez, c'est l'invraisemblable inflation en Allemagne. La République de Weimar ne va pas y survivre et on sait qu'en 33, c'est Hitler qui arrivera au pouvoir, évidemment. Ursula, elle, est solidement ancrée dans son travail, dans son engagement communiste. Elle se marie à Rudi Hamburger, qui est un architecte lui aussi très engagé dans la Révolution. Et au début des années 30, le couple va faire un grand voyage et s'installer en Chine, à Shanghai. On a demandé à son mari de dessiner des plans, enfin de faire des plans pour les nouveaux quartiers de la ville de Shanghai, qui est en plein développement déjà à l'époque. Les Hamburgers s'installent donc à Shanghai et Ursula comme beaucoup d'expatriés qui vivent dans la Chine de l'époque, eh bien, elle s'ennuie un peu, et d'autant plus qu'il n'est pas question là-bas d'afficher ses idées communistes. Par le hasard des rencontres, elle ne s'en lie pas moins avec une femme qui s'avère travailler pour le régime moscovite, et peu à peu, Ursula va être intégrée dans ce petit monde pro-soviétique. Au début, elle organise chez elle des rendez-vous clandestins, jusqu'au jour où on lui demande si elle accepterait carrément de devenir agent de l'URSS. Oh, elle ne va pas hésiter longtemps, Ursula. Ça peut coûter cher, cette affaire, mais ça la passionne. Alors, dans un premier temps, on lui confie des petites missions. Vous savez comment c'est, on teste sa fiabilité. Et puis, les agents soviétiques comprennent très vite que cette jeune mère allemande, juive, avec ses enfants, tout ça, ça fait la couverture idéale. Et on lui propose de quitter Shanghai pour aller recevoir à Moscou une formation complète. Ça veut dire quitter son mari et ses enfants, mais ça ne l'arrête pas, ni une ni deux. Ursula accepte et elle va se former pour pouvoir ensuite accomplir des missions en Mandchourie, ça c'est tout indiqué quand on a longtemps vécu à Shanghai, et puis en Italie, et puis en Pologne, etc. Et elle devient une très bonne espionne. Après quoi, elle va pouvoir récupérer ses enfants et venir s'installer en Suisse en 1938. Ben voilà, nous y sommes. On est juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que nous la retrouvons. Son rôle maintenant, c'est de récupérer un puissant réseau d'espions qui était là avant elle. Il faut qu'elle forme de nouvelles taupes, qu'elle envoie en Allemagne ses nouveaux espions et qu'elle communique en permanence avec Moscou. Elle est en quelque sorte, elle, la plaque tournante, si vous voulez. En avril 1939, un de ses agents qui se trouve à Berlin lui écrit « Et ce qu'il lui dit pourrait bien changer le cours de l'histoire. » L'agent en question lui précise avoir pris des habitudes dans un célèbre restaurant de Berlin. Il se trouve que depuis quelque temps, ce restaurant est fréquenté par un certain Adolf Hitler. Vous imaginez, ça peut être très utile. L'agent demande des ordres à Sonia. Est-ce qu'il doit en profiter pour éliminer le dictateur allemand ? Sonia, qui est juive, vous imaginez, pour elle, Hitler est l'abomination, déjà à l'époque, en 1939. Et elle va donner un ordre incroyable. Elle dit « La prochaine fois que vous fréquentez ce restaurant et que l'occasion se présente, vous tuez cet homme !» Le très tonique deuxième mouvement de la première symphonie de Kabalevski, l'Orchestre symphonique de Malmö était sous la direction de Darrell Lang.
Vous écoutez Radio Classique.
Et donc Sonia prépare maintenant cet attentat qui doit tuer Adolf Hitler. Les deux agents communistes doivent placer une bombe sous une table du fameux restaurant où le Führer vient en confiance. Il est généralement pas trop accompagné, il y a évidemment des gardes du corps, mais le plan est prêt, sauf que... C'est souvent comme ça, vous savez, c'est le grain de sable dans les rouages. Les presses de la cité viennent de faire paraître le nouveau livre de Marie-Laure Buisson qui s'intitule « Espionne ». Et c'est dans cet ouvrage qui dresse le parcours de six espionnes au destin étonnant que nous avons évidemment, avec Jean-Baptiste Galen, retrouvé le destin de cette Sonia. Voici ce que nous dit Marie-Laure Buisson. « L'agent Sonia est livide devant son verre de lait. Immobile depuis plusieurs heures, elle ne peut croire la nouvelle qu'elle vient de lire dans le journal de Genève. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'URSS ont signé un pacte de non-agression. En clair, Staline a passé un accord avec Hitler. L'URSS et l'Allemagne nazie sont maintenant des pays amis. Stupeur pour la jeune juive qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Les nazis ne seraient donc plus les ennemis des communistes. Écœurée mais obéissante à Moscou, Elle déchire les plans de l'assassinat qu'elle a mis au point contre le Führer. Le monde que la jeune femme s'est construit vient de s'écrouler. Moscou, l'infaillible, a trahi. On pourrait imaginer que Sonia trahisse à son tour Moscou, mais non. Elle reste fidèle, elle est née communiste. On ne dévie pas quand c'est comme ça de Moscou. Et quand la guerre éclate en septembre 39 et que la France est envahie au premier semestre de l'année 40, la Suisse est entièrement encerclée et Sonia se dit qu'il faut à ce moment-là qu'elle quitte la Grande-Bretagne. Vous imaginez s'il n'y avait pas eu ce pacte germano-soviétique et si elle avait pu aller jusqu'au bout de son projet d'assassinat d'Hitler comme la guerre, l'histoire en aurait été changée. Bref, il se trouve qu'elle a épousé l'un des espions de Berlin, celui qui n'avait pas pu tuer Hitler. Lui a la nationalité britannique et donc ils vont pouvoir aller s'installer tous les deux là-bas en Angleterre sans trop de difficultés, pas très loin d'Oxford. Sonia ne sera pas seule puisque sa famille berlinoise s'est installée à Londres pour éviter la Gestapo. Donc Sonia s'insère facilement dans les milieux communistes. Au début de la guerre, quand l'Union soviétique n'est pas encore en guerre contre l'Allemagne nazie, donc Sonia a pour ordre d'étendre son réseau dans les sphères politiques et militaires anglaises. Monter des réseaux, elle sait faire, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Celui qu'elle avait consolidé en Suisse était l'un des plus puissants que l'espionnage soviétique ait jamais pu avoir. En juin 1941, c'est l'opération Barbarossa. Cette fois, Hitler attaque l'URSS et c'est une mauvaise nouvelle pour les soldats de l'armée rouge, mais c'est une bonne nouvelle pour les agents de l'Union soviétique qui peuvent de nouveau lutter ouvertement contre Hitler qui est dans le camp ennemi maintenant. Un jour de juillet 1942, le frère d'Ursula, de Sonia si vous préférez, Jürgen, lui conseille de rencontrer une de ses connaissances qui s'appelle Klaus Fuchs. C'est un physicien, il fait partie du programme Tube Alloys, c'est un programme anglais qui est connu seulement au plus haut niveau de l'État britannique, un projet qui réunit des scientifiques et qui déjà prépare la bombe nucléaire. Et Klaus Fuchs est aussi très proche des milieux communistes. Bon, les enquêtes du MI5 ont révélé qu'il n'était pas communiste, mais enfin, il est proche. Le physicien cache son jeu. Il souhaite en vérité que l'URSS obtienne la bombe, elle aussi. Et à l'automne 1942, Sonia organise une rencontre dans la campagne d'Oxford. Elle retrouve dans une petite gare son fameux physicien, là. Et bras dessus, comme un joli couple le ferait, les voilà qui arpentent des petits chemins de terre dans l'Oxfordshire. Tout ça a l'air tout à fait innocent. Ils établissent la collaboration afin de faire fuiter quotidiennement un certain nombre de documents classés. Ils sont même classés archi-secrets, vous imaginez les documents en question. Il s'agit d'élaborer la bombe atomique. Et après quelques heures de balade, Sonia rentre chez elle. Elle embrasse ses enfants, elle les couche. Et comme tous les soirs pendant près d'une décennie, une fois ses enfants au lit, elle se rend dans sa chambre et communique toutes ses informations à Moscou avec sa radio. Et voilà comment elle travaille et comment elle vit. Elle a tellement d'informations à faire remonter à ses supérieurs parce qu'elle a un réseau très puissant, véritablement tentaculaire. Donc les informations sont innombrables. Le MI5 la surveille de près, mais le gouvernement de Londres ne veut pas perdre ses forces dans la lutte contre les sphères d'influence soviétiques. Vous imaginez bien, c'est d'une complexité cette histoire d'espionnage, de contre-espionnage. On a déjà beaucoup à faire contre les Allemands, on ne va pas en plus s'occuper là des Anglais. Et un jour, Klaus Fuchs annonce à Sonia qu'il est muté aux États-Unis, parce qu'en vérité les deux pays, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont mutualisé leur programme nucléaire. C'est l'accord de Québec en août 1943. Et pour Sonia, ça va être un peu un problème parce qu'il y a une distance qui s'établit, mais ce n'est pas grave. Ils continueront à collaborer. Il y a énormément d'agents qui travaillent de l'autre côté de l'Atlantique, donc il suffit de relier les deux réseaux. Et en deux ans, Klaus Fuchs a transmis plus de 570 pages de documents classés hautement sensibles que les soviétiques peuvent étudier tranquillement. Le 24 juillet 1945, alors qu'on est tout près de la fin de la guerre maintenant, Churchill, Truman, Staline se retrouvent à la conférence de Potsdam, vous savez, et pendant les rencontres, le président américain, avec l'accord de Churchill, apprend à Staline qu'il possède une nouvelle arme extrêmement puissante. Oh, il est convaincu, Truman, qu'il va épater Staline. En vérité, le dictateur soviétique garde l'œil le plus imperturbable qui soit, et pour cause, puisque tout ça, il le sait déjà très bien, et s'il le sait, c'est grâce à Sonia. Voilà, ce que nous entendions là, c'est la bande originale d'un film soviétique des années 30 qui s'appelait Amour et haine, signé Shostakovich et réenregistré par le chœur d'hommes et l'opéra de Mannheim sous la direction de Max Fitzgerald.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, la guerre est terminée, les alliés ont, enfin, les Américains ont fait sauter leurs deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, explosées plutôt que sautées. Désormais, les Soviétiques se consacrent à l'élaboration de leur propre bombe A, et les alliés savent qu'un jour, les Soviétiques vont réussir à avoir la bombe. Ils s'imaginent qu'il va leur falloir longtemps. Hein. Les Soviétiques mettront 10 ans, dit-on. Oui, en 1949, c'est-à-dire 4 ans seulement après, l'URSS fait exploser une bombe de 22 kilotonnes au Kazakhstan. Les Américains sont complètement stupéfaits. Eux pensaient garder beaucoup plus longtemps le monopole de l'arme atomique. Et Sonia, qui maintenant habite dans sa petite maison de l'Oxfordshire, jubile. Elle est tout à fait partie prenante à cette réussite soviétique, bien sûr. Le soir, elle et son mari laissent leurs 4 enfants sous la garde d'une nounou. Ils vont boire un verre de champagne pour célébrer le succès de madame dans le meilleur restaurant d'Oxford. Il faut dire que pour l'URSS, l'obtention de la bombe A, ça accélère considérablement le processus d'enclenchement de la guerre froide, bien sûr, hein, qui va durer pendant près d'un demi-siècle. À partir de 1949, les États-Unis réévaluent la menace soviétique et préconisent un renforcement massif de leurs propres arsenaux militaires en général et nucléaires en particulier. Le service de contre-espionnage va intensifier son travail contre les agents soviétiques et bientôt, le nom de Sonia apparaît sur quelques listes. Sauf que cette femme de 42 ans, qui maintenant est mère de 4 enfants, dont 2 sont encore en bas âge, n'est pas vraiment suspectée. On se doute pas qu'elle ait eu un rôle aussi considérable. Sonia continue à s'occuper de son réseau. Mais il y a un élément qui va tout faire basculer. On est à la fin des années 40, donc. Les alliés parviennent à craquer les messages codés qui étaient utilisés jusqu'ici par les soviétiques. Ils identifient une taupe considérable. C'est un physicien, n'est-ce pas? Et c'est le fameux Klaus Fuchs. Et en février 50, la tête de Fuchs fait la une du Times avec ce titre « L'homme qui a dévoilé les secrets nucléaires aux Soviétiques ».
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et là, si Fuchs parle et qu'il nomme Sonia, là, la vie de cette femme va totalement changer, hein, c'est sûr. Elle demande tout de suite des visas pour l'Allemagne de l'Est avec toute sa famille. Elle veut partir là-bas. Le 18 février 50, elle laisse son mari en Angleterre pour quelques jours avant que lui-même ne la suive. Elle place ses enfants à l'arrière du taxi. Elle monte, elle, à l'avant à côté du chauffeur. Je cite encore Marie-Laure Buisson, grâce à laquelle nous savons tout cela. Arrivée à l'aéroport, elle se précipite hors du taxi avec les enfants, tend un gros billet au chauffeur et lui dit de garder la monnaie. Elle doit encore passer la police de l'air et des frontières. Suspicieux, l'agent en uniforme regarde la mère de famille et se demande pourquoi elle a le visage si inquiet, les cheveux en bataille et les yeux marqués par des cernes bleues. Il hésite plusieurs fois avant de tamponner son passeport. Ursula sent son cœur s'emballer, la sueur descendre le long de sa colonne vertébrale, mais elle ne craque pas. Elle reprend finalement sa respiration quand le coup sec du tampon douanier lui offre enfin le droit d'avancer vers la porte d'embarquement. Épuisée, elle s'installe dans l'appareil et aide ses enfants à boucler leur ceinture. Elle écoute les turbines des moteurs monter en puissance et compte les minutes avant le décollage, fixant la porte de la cabine toujours ouverte, son cœur battant à la vitesse de la lumière, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipage la referme enfin. Quelques secondes plus tard, lancé à pleine vitesse sur la piste, l'appareil quitte le tarmac et replie ses trains d'atterrissage avant de croiser en plein ciel, vers l'est. Alors, il y a des grands connaisseurs des questions de services secrets qui nous disent que les services secrets britanniques auraient préféré la laisser fuir plutôt que, en l'arrêtant, se ridiculiser dans un procès qui aurait montré à quel point il s'était montré pendant la guerre incompétent. Quoi qu'il en soit, Sonia va être reçue dans sa nouvelle patrie à Berlin-Est avec les honneurs. Elle décide de mettre un terme à ce moment-là à sa carrière d'espionne et elle passera le reste de sa vie avec la plume à la main. C'est dans l'écriture du roman policier qu'elle se lance. Il faut dire qu'en matière de secrets, de méthodes mystérieuses, etc., elle en connaît un rayon, vous imaginez bien. Elle aura un grand succès de l'autre côté du rideau de fer. Elle écrira même en 1970 des mémoires qui s'appellent « Le rapport de Sonia ». Elle n'est morte, cette dame-là, qu'à l'âge de 93 ans à Berlin, le 7 juillet de l'an 2000.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste et bonjour à Christian.
Bonjour mon cher Franck Ferrand. Alors, vous évoquiez la bombe russe.
Oui.
Ça a l'air lointain, jusqu'à quelque temps ça avait l'air lointain, mais on reparle de bombes russes actuellement.
Ah oui, alors pour d'autres raisons, et oui, pas mais... tout à fait les mêmes bombes.
Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire que le calme n'est pas encore bien installé.
Non, je crois que le calme, c'est tant qu'il y aura un être humain sur cette planète, il n'y aura pas de calme, il faut se mettre ça dans la tête.
Alors, il faut supprimer tous les êtres humains, et comme ça, on va revenir aux animaux, et puis peut-être...
Je ne suis pas sûr que les animaux soient beaucoup plus calmes que les humains, entre nous.
Non, mais enfin, ce sont des êtres sur Terre qui n'ont jamais fabriqué d'armes pour se tuer.
C'est vrai.
C'est la seule différence avec nous. Bien, et elle est grande. Cet après-midi, vous allez nous parler d'un frère dominicain assez particulier, Savonarole.
Oui, qui a instauré une dictature terrible à Florence. On parlait de Florence hier, on va rester dans cette république italienne.
Retour en Italie, ne bougez pas, restez chez vous. Et grâce à Franck, vous voyagez tous les matins, déjà 8h05, avec l'évocation du point du jour aux côtés de David Abiker et à 14h, bien sûr, tout à l'heure. Et demain matin, le plaisir de se retrouver. Bonne journée.
Bonne journée à vous.